Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes, ça m'intéresse pas.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous vous coupez ?
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un routier de la vulgarisation scientifique à la télévision que je reçois ce matin, E égale M6 étant la plus ancienne des émissions de science et de santé encore à l'antenne. Il n'empêche, elle se déclinera, cette émission de science, à partir de samedi et chaque semaine en E égale M6 santé, spécifiquement sur la santé en hebdomadaire. Et comme premier sujet, vous aurez 45 minutes de pédagogie sur l'hygiène corporelle. On y apprend une foule de choses. On s'est quand même demandé si l'hygiène, au carrefour de la santé, mais aussi des enjeux industriels qui sont massifs, était un sujet comme les autres pour une chaîne privée qui accueille beaucoup, beaucoup de publicités sur les produits concernés.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Mac Lesguy.
Bonjour Sonia De Villers.
Voilà, ben vous voyez, on est parti d'une problématique de santé. On va parler aussi de problématiques industrielles. E égale M6 santé, tous les samedis à 17h35. Le E égale M6 traditionnel, lui, se poursuit. Hein, c'est pas l'un à la
tout
place
à fait.
De l'autre.
Et ça, c'est dimanche à 20h20.
Voilà. Et puis je vous avoue que l'angle de cette interview, il n'était pas tout à fait prévu. Il est venu au fur et à mesure qu'on a visionné votre nouveau programme hier. Donc on a une foule de questions à vous poser, puis que les téléspectateurs se poseront également.
Suis ravi.
Cyril Petit est de retour. Bonjour Cyril.
Bonjour Sonia.
L'été s'est bien passé.
Ouais, super.
Voilà, rédacteur en chef technique du journal du dimanche, du JDD, comme on dit, amoureux et fin connaisseur de la presse régionale, dont vous continuerez cette année de temps en temps à nous tricoter les facettes et les petites histoires. Vous avez choisi de nous faire découvrir ce matin, Cyril, des travailleurs de l'ombre, indispensables à la vie des journaux régionaux. Les porteurs, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, il fallait leur rendre hommage.
Ils sont indispensables. Ouais. Pendant notre sommeil, ils viennent déposer le journal devant la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres. On en compte 21 000 en France qui distribuent la presse régionale aux abonnés. 4 000 chaque nuit à Ouest-France, le record. 1000 pour les journaux du groupe Centre-France, 700 pour le Dauphiné, 600 pour la Provence.
Voilà, et sans eux, donc, il faut vraiment le comprendre, une majorité des Français n'auraient pas accès à leur journal du matin.
Exactement, les ventes de presse numérique augmentent certes, mais le portage représente 56% de la diffusion. Accrochez-vous, Sonia, c'est 690 224 334 journaux qui ont été livrés par ces petites souris l'an passé.
Ouais.
Et la livraison constitue même la première raison de mécontentement des lecteurs. Une erreur dans un article, ça passe. Un retard, ça casse. La plupart des journaux sont distribués avant 7h30. Le porteur, lui, il embauche vers 2-3 heures. Il récupère ses exemplaires sortis de l'imprimerie et il les livre un à un en voiture, en deux roues ou à pied par tous les temps, souvent avec une lampe frontale pour ne pas rater la boîte aux lettres dans le noir. Une tournée, ça dure environ 2 à 3 heures pour livrer 200 à 350 journaux sur une zone de 20 à 40 km.
Voilà, et c'est un métier qui recrute.
Ah oui, les annonces fleurissent. Cet été, le Parisien cherchait à embaucher 100 porteurs en Ile-de-France. Ouest-France, de son côté, en a besoin de plusieurs à Laval et dans le sud de Mayenne. Sachez aussi que le Courrier Picard en cherche un dans les secteurs Longueuil, Sainte-Marie, Ribécourt, Drélincourt et Chevrières. Mmh. Alors les porteurs, ce sont des retraités, des actifs, des étudiants. C'est l'activité principale pour certains. C'est un job d'appoint pour d'autres, comme Brigitte et André, qui habite à Brévonne, dans l'Aube. Elle est secrétaire médicale, lui, employé communal. Laisse Éclair raconter leur histoire cet été. Ils enchaînent le portage de 3h30 à 5h45, puis leur journée de travail.
Voilà, petit déjeuner, ensuite ils partent travailler.
Exactement.
C'est extrêmement intéressant parce que voilà des employés qui ont un travail à temps plein, qui ont besoin d'un petit job. En plus, ça en dit long quand même sur la précarisation des travailleurs en France. Et on vous a raconté, Cyril, on vous a donné 1000 exemples de gens qui viennent livrer des journaux un mois, deux mois, trois mois dans l'année, juste pour rembourser un crédit de machine à laver.
Exactement, voilà, tout le monde m'a dit, tous les interlocuteurs que j'ai eu m'ont dit ça. On devient porteur temporairement pour rembourser un crédit.
Voilà, alors combien on gagne justement quand on est porteur ?
Alors un porteur qui travaille 5 jours sur 7 pendant 3 heures, alors ça varie évidemment en fonction des journaux, mais peut gagner entre 500 et 600 euros net, soit un peu plus de 20 centimes par journal distribué.
Voilà, et comme vous vouliez leur rendre hommage, Cyril, à ce métier qui disparaîtra un jour en même temps que le papier, mais qui en attendant contribue à la survie des journaux, vous avez exhumé une très jolie petite histoire et très
histoire,
ancienne.
Oui, ouais. Je vous ramène à la toute fin du 19e siècle. Lors de l'élection de Félix Faure, une course de porteurs cyclistes est organisée entre Versailles et Paris. C'est ainsi que naissait le championnat de la presse. Chaque porteur devait parcourir 15 à 20 km, lesté de 15 kilos de journaux. Ça a été un très grand succès jusque dans les années 50. Et certains porteurs ont même participé au Tour de France. On les appelait les roule toujours.
nous sommes actuellement rue Montmartre. Nous allons assister au départ du championnat des Roules Toujours. Les Roules Toujours, ce sont, vous savez, ces porteurs de journaux, ces champions de l'adresse qui sprintent dans les rues de Paris en faisant plus ou moins tressaillir les piétons et les automobilistes.
En tout cas, en 2018, hein, malgré la crise de la presse, cela roule toujours.
Merci beaucoup, Cyril Petit. À bientôt.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, et je reçois Mac Lesguy qui s'est bien assagi niveau lunettes. Je pense qu'on vous le dit à chaque fois, mais vous nous avez tous marqués quand on était petits avec ces montures assez exubérantes qui lancent donc un E égale MC spécial santé. Donc on va rappeler votre façon de travailler, Mac Lesguy, parce qu'il y a une vraie constante que vous parliez d'histoire sur M6. On vous avait reçu à ce moment-là que vous parliez de science ou aujourd'hui de santé. C'est toujours un programme familial, un programme de vulgarisation scientifique avec beaucoup d'expérience sur des cobayes, vous, de temps en temps. Vous n'hésitez pas, des cobayes qui sentent des pieds, qui transpirent des mains, qui arrêtent de se laver le corps, qui arrêtent de se laver les cheveux.
Qui se rongent les ongles.
Voilà, exactement. Des prélèvements en laboratoire, des explications de médecins et des infographies. C'est-à-dire que la palette, en fait, de votre grammaire télévisuelle est assez large.
Je crois que c'est parfaitement résumé.
C'est ça, voilà. Alors, c'est vivant, c'est pédagogique. De toute façon, c'est toujours votre mot-clé, la pédagogie. La pédagogie, il faut parler à tout le monde, y compris quand on parle des bactéries.
Exactement, et vous avez raison de souligner que l'outil numéro un en la matière de l'émission, c'est la boîte de Pétri. Vous savez, c'est cette petite boîte en verre avec à l'intérieur de la gélose qui permet de faire des prélèvements, qui permet ensuite, on les met en incubation, et ça permet de visualiser les bactéries qui sont invisibles, qui nous entourent, puisque vous-même, moi-même, vous Cyril, vous avez sur la peau en ce moment des millions de bactéries. Certaines vous protègent, d'autres sont potentiellement pathogènes, mais la peau est une barrière. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'outil numéro un du microbiologiste. Et c'est un des outils préférés de l'émission.
Quand on met ces petites bactéries en culture dans ces petites boîtes, ça permet de remarquer quand elles se développent que la bactérie qu'on a sur les pieds est pas très loin de celle du Munster, par exemple.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait. C'est l'odeur, mais pas très loin d'ailleurs. Si, parce que en fait, le Munster, c'est un cocktail de bactéries. Ouais. Comme nos pieds, effectivement, c'est un cocktail de bactéries. Et quand vous ouvrez la boîte de Pétri après 2 jours de mise en culture, ça sent une odeur tout à fait caractéristique. D'ailleurs, autrefois, je vais vous raconter une anecdote qui est marrante parce qu'on l'a pas mise dans l'émission. C'est que un bon microbiologiste, il met des cellules en culture, il met des bactéries en culture. Deux jours après, il sort de l'étuve, il les sent au nez. Et là, rien qu'à l'odeur, il dit « Ah ben ça c'est Staphylococcus aureus, ça c'est un streptocoque comme ça, ça c'est une Escherichia coli, voilà, donc ça se reconnaît à l'odeur. »
À l'odeur.
Voilà, bah, c'est pas recommandé de les renifler, mais c'est ce qu'il faisait autrefois.
Exactement comme on renifle le fromage.
Voilà.
Alors, vous expliquez très bien les raisons scientifiques de pourquoi savon, gel, douche et shampoing peuvent agresser la peau et les cheveux si on les utilise mal. Je me suis quand même posé la question, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on sait très bien qu'M6 cible essentiellement les femmes avec enfants et que vous faites un programme familial. Si vous répondiez vraiment aux questions de santé, à proprement parler, que votre public se pose sur les questions d'hygiène corporelle. Il me semble, moi, que globalement, la plupart des Français savent qu'on ne peut pas se frotter la peau tous les jours au savon de Marseille, même si vous réexpliquez pourquoi, en expliquant ce que c'est que le derme, l'épiderme, etc.
Faut-il le dire, mais je vous laisse poursuivre.
Voilà, vous filmez beaucoup de produits d'hygiène quotidienne dont vous masquez les marques. Ça, évidemment, c'est une contrainte
totalement.
Du CSA. Vous donnez des instructions sur comment les utiliser, plutôt du savon sur gras, du shampoing doux, comment marche un shampoing sec, un déodorant. Aujourd'hui, quand on achète un déo en supermarché ou en pharmacie, on se pose tous quand même la question, est-ce que les sels d'aluminium, c'est dangereux ? Et de ça, vous ne dites pas un mot, alors que nous tous, grand public et parents et mères de famille, on lit des choses, on entend beaucoup de choses, et c'est là-dessus qu'on se pose des questions et qu'on a besoin de repères.
Alors, c'est peut-être une question que vous posez, elle est tout à fait légitime. Je pense pas que le grand public se la pose, et en tout cas, je peux vous dire, parce que évidemment, on regarde toujours la presse scientifique, non scientifique sur ces questions, que la question des sels d'aluminium dans les déodorants n'est pas un enjeu de santé publique. La question de l'hygiène, d'avoir une bonne hygiène, de rester en bonne santé, c'est un enjeu de santé publique. Ça concerne des millions de gens. Il faut rappeler en France qu'à un instant T, vous avez beaucoup plus de gens qui sont en bonne santé que de gens qui sont malades. Voilà. Et donc, nous, on explique vraiment les basiques. La question basique qu'un enfant qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, entouré de ses parents va se poser, c'est est-ce que ça sert vraiment de se laver? Qu'est-ce qui se passe si on se lave pas? Qu'est-ce qu'on enlève quand on se savonne, par exemple? Vous le savez, effectivement, on va éliminer un surplus de bactéries, mais on va aussi s'attaquer à ce film qu'on a sur la peau, qu'on appelle le sébum, qu'on appelle, un terme plus scientifique, le film hydrolipidique, parce qu'il contient de l'eau et des graisses. Voilà. C'est à ces questions de base qu'on s'intéresse.
Alors, il n'empêche que je vous fais écouter juste un petit extrait de l'émission pour bien qu'on comprenne où je veux en venir.
Au vu de cette enquête, n'oubliez pas, bien se laver ne veut pas forcément dire décaper. Une bonne hygiène ne consiste pas à éradiquer les bactéries nécessaires à la santé de la peau et du cuir chevelu. Quant aux odeurs corporelles, pas de panique, des solutions toutes simples existent pour les empêcher de vous gâcher la vie. Les chercheurs mettent au point des produits d'hygiène adaptés et des traitements de plus en plus performants pour prendre soin de votre corps sans porter atteinte à votre santé.
Voilà, ça pourrait aussi ressembler à une grosse pub pour l'industrie concernée.
Alors, vous pourrez me dire, tiens, vous allez vous faire attaquer par les fabricants de savon de Marseille, du savon pur et dur, puisque on dit clairement dans l'émission que se laver tous les jours avec du savon, le savon c'est agressif, hein, vous savez, c'est quelque chose qui a un pH acide. Voilà, c'est très bien pour se laver les mains, etc. Il y a des zones de la peau sur lesquelles le savon va être agressif. Bon, je peux vous dire qu'on n'a eu aucune remarque particulière de la régie publicitaire ou des fabricants. Nous disons, dites donc, vous faites la promotion des savons sur gras ou à pH doux versus le savon traditionnel.
De la régie publicitaire, Mac Lesguy, on est bien d'accord que les fabricants de savon de Marseille pèsent assez peu lourd vis-à-vis de Procter & Gamble et d'Unilever, quand même.
Bah, je sais pas, peut-être c'est... que. Alors, bah, mais... je vais pas creuser la question, je sais pas si Procter & Gamble ou Unilever,
mais
je
veux dire. C'est une vraie question que je vous pose, parce que quand vous dites c'est pas une question de santé publique et c'est pas forcément la question que les gens se posent. Ça faisait la une du Parisien, et on peut pas dire que le Parisien soit un journal élitiste ou une publication scientifique. Et c'était la une du Parisien il y a 15 jours. C'est quand même un grand journal populaire qui disait « Faut-il jeter nos crèmes solaires ?» Tant elles contiennent de perturbateurs endocriniens et de substances chimiques qui peuvent aussi être nocives. Donc c'est une question sincère qui est dans toutes les familles.
Alors je ne pense pas qu'elle soit dans toutes les familles. C'est un titre journalistique, c'est une belle une de presse effectivement. Ouais. Je vais vous répondre et on n'a pas encore fait d'enquête précise sur ce sujet, mais qu'entre l'inconvénient éventuel. Qu'une crème solaire ait un ou plusieurs perturbateurs, tout a des perturbateurs endocriniens, vous savez, même y compris dans ce que vous mangez, tout ce qui est bio, par exemple, est bourré de perturbateurs endocriniens. C'est normal, il faut pas qu'il y en ait trop. Après, vous avez les perturbateurs endocriniens naturels et ceux qui sont de synthèse. Ouais. Ceux qui sont naturels sont pas meilleurs que ceux de synthèse, même s'ils ont meilleure presse. Mais si on parle des crèmes solaires, il est tout à fait clair que l'enjeu, effectivement, dans la prévention du mélanome et des cancers de la peau, est qu'il faut mieux mettre, quand vous allez au soleil, des crèmes solaires, plutôt que de la jeter en disant « je vais attraper les coups de soleil ». Je pense que il faut commencer par rappeler ce genre d'évidence. Vous savez, moi j'ai pas une formation de journaliste.
Non, vous êtes ingénieur agronome.
Je suis ingénieur agronome. Ouais, et moi je rappelle toujours ce modèle Bernondre qui est le journaliste. Il est là pour pas raconter les trains qui avaient l'heure, mais pour porter le fer dans la plaie. Mm-hmm. Et en ça je ne me sens pas journaliste. Je sens que je fais de la vulgarisation scientifique quand je rappelle les bases. L'exemple des crèmes solaires est un excellent exemple. Voilà, c'est pas la peine de faire une qui va affoler les gens en disant il faut jeter les crèmes solaires, parce que souvent les gens vont les lire au premier degré sans lire le reste de l'article. Mm-hmm. Ils vont attraper 4 coups de soleil l'été en disant ah mais comme ça je n'aurai pas quelques nanogrammes de perturbateurs endocriniens, parce que ils vont multiplier par 3 ou par 4 le risque de cancer qu'ils vont avoir à la fin de l'été.
Alors, parce qu'ils ont pris des coups de soleil. Les crèmes solaires, si on reprend les produits dont vous parlez, même par exemple Que Choisir, qui est une association de consommateurs indépendante, a mis à disposition du grand public une appli qui s'appelle Quelle Cosmétique, et tous ces produits que vous montrez, mais en masquant les marques, mais on reconnaît quand même les emballages, Que Choisir propose de scanner l'emballage afin que les gens puissent savoir ce qu'il y a comme composant chimique et ce qui éventuellement peut être nocif au corps d'un adulte ou d'un enfant.
Je ne dis pas. Ouais. Alors, être nocif, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que n'importe quel produit que vous appliquez sur la peau, n'importe quel aliment que vous mangez, vous avez ce qu'on appelle un rapport bénéfice sur risque. Quand le bénéfice est immense et que le risque est très faible, il y a deux solutions. Soit vous dites, il faut se passer de cet aliment ou de ce produit parce que vous ne regardez que le risque et vous refusez de voir le bénéfice. Voilà. Nous, la science résonne en termes de bénéfice-risque. Je vais vous prendre un autre exemple, par exemple, qui est bien connu en ce moment, les polémiques n'ont plus finir, ce sont les vaccins.
Voilà,
vous savez que les vaccins contiennent des adjuvants et que ces adjuvants, dans des cas extrêmement rares, mais qui sont documentés, font ce qu'on appelle une myofasciite, effectivement, avec douleur dans la fesse, etc., etc. Voilà. Ce sont des cas qui sont très rares, mais qui sont effectivement documentés, voilà, et qui conduisent certaines personnes à dire, je refuse que mon enfant soit vacciné. Voilà.
C'est le genre de sujet que vous pourrez prendre à bras le corps, c'est-à-dire attention aux alertes,
je sais que je pourrais prendre à bras le corps et qu'on a déjà fait, parce que ce sujet a des conséquences réelles sur la santé
publique.
Vous savez, sur la santé publique, vous savez qu'on a eu, je crois, 3 morts de la rougeole.
Absolument.
Depuis le début de l'année. À quoi sont imputables ces 3 morts sur la rougeole? À l'absence de vaccination. À quoi est imputable cette absence de vaccination? C'est aux polémiques, certainement au climat, non pas uniquement médiatique, mais par les réseaux sociaux, etc., cette espèce d'ire
anti-vaccin.
Et c'est là qu'on estime, nous, avoir un rôle, effectivement.
La quantité d'informations qui circulent sur Internet.
Exactement.
Et qui est le dire.
Si on ferait quelque chose sur les vaccins, on commencerait par rappeler le bénéfice des vaccins. Et que si on arrête massivement les vaccins du jour au lendemain, ce que veulent faire les Italiens, par exemple, eh ben, c'est pas 3 morts de la rougeole que vous en arrêtez 200 ou 300 par an, vous aurez la rubéole, vous aurez la diphtérie, etc. Non, mais attendez, c'est quelque chose qui me, je vais vous lire. Je souffre parce que quand je lis beaucoup de journaux, quand je vois certaines émissions de radio, quand je regarde surtout ce qui circule sur Internet, je suis effaré par la quantité de, moi, ce que j'appelle pas de la désinformation, mais de la non-information scientifique, effectivement, où on ne remet jamais en perspective, du point de vue de la science, et la science, on ne remet jamais ces notions en perspective. Je ne vous dis pas
qu'on traite... C'est-à-dire que nous, mères de famille, ça fait, quand on était gamine, nos mères se posaient pas la question des biberons en plastique, se posaient pas la question de ce qu'il y avait dans les crèmes qu'elles mettaient sur la peau des fesses de bébé, ne se posaient pas la question de ce qu'il y avait dans les talcs et les shampoings, ni dans ce qu'il y avait dans les tampons hygiéniques. Il se trouve que, aujourd'hui, on pose ces questions-là, ces questions de perturbateurs endocriniens, de substances cancérogènes et tout ça, et qu'on se les pose quand même dans beaucoup de familles.
Il ne faut pas faire d'amalgame. Quand vous avez une substance cancérogène, on va prendre un exemple, comme le tabac, etc. Voilà, elle est documentée. Vous savez combien, malheureusement de morts vous avez derrière. Voilà, c'est de l'épidémiologie. Ouais. Le diesel, c'est pareil. Ouais. On a parlé du diesel parce que les épidémiologistes sont en mesure d'établir effectivement le nombre de morts prématurées que vous avez avec le diesel, avec le tabac, avec la consommation d'alcool aussi, il faut le dire, ça provoque beaucoup de cancers. Sur la question des phtalates, des perturbateurs endocriniens, le fameux effet cocktail dont on dit qu'il existe, mais dont vous avez quelques rares études qui le documentent in vitro et on n'a jamais vu de conséquences sur la santé humaine. Je ne dis pas que ce ne sont pas des problèmes, ce ne sont pas des enjeux, mais moi, ça m'intéresse de traiter
les choses.
Et en tout
cas, ce sont des questions.
Ce sont des questions que l'on peut éventuellement se poser, mais nous, on traite le béaba de la science. Et ce ne sont pas, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas pour moi un enjeu de santé publique face à d'autres enjeux qui sont réels, qui sont sérieux.
Ça n'a rien à voir avec le contrat publicitaire que vous avez, MacLesby, depuis des années avec la marque Oral-B, qui est une marque de dentifrice, de bain de bouche ou de...
Et de brosse à dents électrique.
Vous savez
que nous nous abstenons soigneusement de parler de brossage de dents et de comparer le brossage électrique, laissez-moi finir, et de comparer le brossage électrique, dont par définition, à partir du moment où effectivement j'incarne la publicité pour le brossage électrique, qu'est-ce qu'on a dit de manière très simple, on dit bien évidemment... On ne parlera jamais de brossage électrique dans Égal M6. On serait tout de suite accusé de collusion, de dire voilà.
Vous parlez aussi de dentifrice dans.
Oui, mais vous avez vu qu'on ne cède pas de marque particulière. Il y a un moment et l'autre, quand vous parlez d'hygiène, vous êtes obligé de rappeler que.
Et c'est vrai que c'est une filiale de Procter & Gamble et que Procter & Gamble est un des géants de l'industrie de l'hygiène corporelle.
Mais bien évidemment,
vous n'avez pas peur.
Mais c'est pas parce que du jour au lendemain on va arrêter, on va dire que ça sert à rien de se brosser les dents, voilà. Se brosser les dents, je suis désolé, mais si je fais la pub pour Oral-B.
Mais vous êtes payé
voilà.
pour ça.
Et je suis payé pour ça. Il n'en demeure pas moins que vous trouverez rarement un dentiste qui dit ça ne sert à rien de se brosser, ça ne sert à rien de se brosser les dents.
Absolument, voilà. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que comme premier sujet.
Arrêtez de m'auto-parodier.
Vous n'avez pas, comme premier sujet pour votre E égale M6 santé, vous n'avez pas choisi, c'est bien ce que j'essaye de vous faire comprendre, pas les vaccins, mais vous avez choisi l'hygiène corporelle et que c'est aussi un enjeu industriel, puisqu'on est au cœur de ce débat-là depuis quelques jours, a aussi son lobby. lobbying a aussi sa puissance et un annonceur très puissant. Et on le sait que pendant très longtemps, tous les sujets, par exemple sur les parabènes dans les crèmes de soins de beauté, étaient bloqués dans les magazines féminins parce que les annonceurs étaient très prégnants. Donc ma question, c'est...
Mais qu'est-ce que ça fait ? Mais attendez, les parabènes...
Est-ce que pour vous, ça rentre en jeu dans votre ligne éditoriale ? Oui ou non ? C'est vraiment ma question.
Non, je veux dire, ça pourrait éventuellement le faire si ça devient un vrai enjeu. Si on s'aperçoit que vous avez, je ne sais pas, un type de cancer qui est induit par ce type de parabène, et que comme je vous le disais, il y a non pas même ne serait-ce que des dizaines de morts ou des dizaines de cancers. Oui, éventuellement on va le traiter, mais ça n'est pas le cas, hein, effectivement. Et d'ailleurs, sinon, ça ferait pas la une d'un seul journal tous les 6 mois, effectivement. Mais ça, on en parlerait tous les jours. Je signale qu'on parle encore relativement peu du tabac, vous voyez, alors que le tabac tue tous les jours. Vous avez des dizaines de personnes qui arrivent dans un hôpital avec un cancer du poumon. Et on sait très bien.
Alors, je prêche pas contre
l'industrie du tabac. Il faut rendre l'antenne. Mais il faut attention. Le point de vue de la science n'est pas nécessairement le point de vue du journaliste. Et Hegel M6 se veut et espère être un magazine scientifique.
Alors, EM égale M6 Santé, c'est tous les samedis à 17h35 et il y a toujours votre rendez-vous du dimanche soir, E égale M6 Science. C'est la fin de l'émission,
Sonia.
Bonjour Elie Révé.
Et on s'intéresse ce matin au plaisir du petit déjeuner, un sujet a priori banal mais qui en dit plus long qu'on ne le croit. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24
avec le glyphosate dans les céréales pour enfants.
7000